Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h59 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. Ce matin, on revient bien sûr sur la disparition de la petite Liana. Elle est toujours introuvable. Elle a 11 ans. Elle a disparu vendredi dernier dans le Gers. Et on apprend que le principal suspect avait fait l'objet d'une plainte pour viol en août dernier. Depuis, rien ne s'est passé. Il n'avait pas été entendu, pas inquiété pour cette affaire et cette plainte pour viol. Dans le journal de 7 heures, vous entendrez le témoignage de la maman de la fillette qui avait porté plainte. Elle ne comprend pas pourquoi l'homme n'avait toujours pas été entendu sur ces faits. Où en est l'enquête ? Nous serons avec un ancien enquêteur de la gendarmerie à 7h10 pour faire le point. Et puis Sébastien Lecornu s'est exprimé hier sur la nuit de violence après la victoire du PSG samedi. Il a dénoncé, je cite, des images lamentables. Il a aussi relancé l'idée d'une exécution des courtes peines. Bonne ou mauvaise idée, vous venez en débattre ce matin au 3216 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Je pose la question à 7h40 à la députée du RN Laure Lavalette. À 8h30, l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls répondra à mes questions. Intérieur et justice, ce matin, effectivement, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et on en débat avec vous autour de toutes les informations qu'on vous donne. Il est 7h dans un instant, le journal. Mais d'abord, la météo. Il y a du soleil au sud, de la pluie au nord, classique.
Ça y reprend un grand classique. Alors, c'est une journée plus calme qu'hier, hein, ce qui ne va pas être très difficile. On va avoir beaucoup de soleil des Pyrénées à la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, ça va être beaucoup plus gris, et notamment entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'île de France et les côtes de la Manche, avec un temps pluvieux. Température pour ce matin en baisse. Cet après-midi, il fera souvent entre 17 et 23 degrés. C'est un peu juste pour la moitié nord. Il fera 24 à 28 degrés pour le sud-est.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 7h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le profil trouble du suspect dans la disparition de la jeune Liana dans le Gers, visée par une plainte déposée l'an dernier pour viol sur une enfant de 10 ans. Vous entendrez le témoignage de la mère de cette victime présumée en colère. Elle dénonce la lenteur de la justice. Deux peines de prison ferme prononcées après les débordements en marge de la victoire du PSG. Et encore beaucoup de sursis. Le débat relancé sur l'exécution des courtes peines. Et puis faites-vous partie des 7% de Français considérés comme riches? La réponse dans ce journal.
Et on est toujours sans nouvelles de la petite Liana ce matin.
Ça fait 5 jours qu'elle a disparu. Les recherches se poursuivent dans le Gers, aux alentours de Florence. Un homme a été mis en examen et écroué dans cette affaire, âgé de 41 ans. Il continue de nier tout lien avec cette affaire, mais son profil interpelle. On a appris hier que ce père de famille était déjà connu des autorités, visé par une plainte pour viol sur une enfant de 10 ans. L'été dernier, et c'est une information révélée par nos confrères de BFM TV qui ont rencontré Marion Gauthier, la mère de la victime présumée, sa voix a été modifiée.
Sa fille Rosa passe de plus en plus de temps dans la famille d'une amie, pose de plus en plus de questions sur la sexualité. Audrey finit par l'interroger, retour du centre aéré.
Ma fille raconte qu'il déshabille dans le lit chez eux, il essaye de pénétrer, que ça fait très mal pour elle, que... Il a fait de l'attouchement du sein, il voulait jouer à le jeu de papa et de maman.
L'enfant ne lui dit pas combien de fois elle a été violée. Pour me protéger, souffle sa mère, qui se demande comment elle n'a pas vu Jérôme B devenir plus présent, insistant pour voir Rosa aujourd'hui.
Elle a un traitement d'antidépresseur, elle a un traitement de somnifère, elle va pas bien. Ses notes de à l'école, ils sont chutés, elle a peur de tout. J'ai une culpabilité énorme, que c'est ma faute. J'arrive plus à regarder dans le miroir.
Mais elle regarde cette plainte tous les jours dans l'attente de nouvelles.
Je dis que si le justice il était marche un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Liana n'est pas disparu. Ça me met en colère.
Elle espère encore que Liana soit retrouvée saine et sauve. Jérôme B, lui, est toujours présumé innocent.
Témoignage recueilli par nos confrères de BFM TV, Fabrice Babin et Juan Balancia.
Et juste après votre journal, Thibault, un général de gendarmerie qui a commandé la section de recherche d'Orléans sera en direct avec nous pour nous dire comment et où en est l'enquête.
23 personnes jugées hier en comparution immédiate après les débordements qui ont émaillé la victoire du PSG en Ligue des Champions. Deux ont passé la nuit derrière les barreaux. Un émeutier placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement et un policier condamné à 2 ans de prison, donc 14 mois ferme pour avoir menacé 2 hommes avec son arme alors qu'il était hors service. Pour les autres, auteurs notamment de violences contre les forces de l'ordre, ils écopent pour la plupart de peines avec sursis et cela agace les oppositions de droite qui exigent des réponses et le Premier ministre de relancer hier à l'Assemblée nationale l'idée de l'exécution de courtes peines. Thomas Becker.
Sébastien Lecornu veut que les courtes peines soient effectivement purgées en prison.
Des peines très courtes, aujourd'hui non possibles. Donner plus de souplesse aux magistrats pour adapter justement notre procédure pénale et notre droit pénal.
Le ministère de la Justice a d'ailleurs un texte prêt à l'emploi, mais c'est le gouvernement lui-même qui a retardé son examen, rappelle le député Horizon Frédéric Valletoux.
Le gouvernement change d'avis, tant mieux. Les courtes peines, c'est le fait qu'elles ne soient jamais exécutées. Tout le monde le sait, et les délinquants les premiers.
Au Rassemblement National, on revendique les droits d'auteur. Pour le député Gaëtan Dussauzet, le gouvernement a un train de retard.
Il oublie que ça fait 10 ans que lui et ses amis sont au pouvoir et qu'ils avaient donc eu 10 ans pour le faire.
À gauche, la députée écologiste Sandrine Rousseau réclame un changement de la doctrine du maintien de l'ordre, pas une nouvelle politique de répression.
Les prisons sont surchargées, les courtes peines. En fait, la seule réponse systématique du gouvernement, c'est la répression, la répression, la répression.
Sans certitude d'obtenir une majorité sur le texte, Matignon se garde pour l'instant d'annoncer une date pour son examen.
À retenir également que 2 personnes sont mortes après avoir chuté dans la Seine, portant à 3 le nombre de victimes lors de cette soirée, des blessés. Aussi comme ce jeune garçon de 13 ans visé à Bobigny par un tir de LBD, une enquête de l'IGPN a été ouverte.
Et la question non seulement du maintien de l'ordre, mais aussi de la réponse de la justice. Je les pose tout à l'heure à Laure Lavalette, elle sera mon invitée sur RMC à 7h40, la députée RN. Et puis vous aussi, bien sûr, vous nous dites, vous réagissez, le 32-16 vous est ouvert.
La gauche, en ordre de bataille à moins d'un an de la présidentielle, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a réuni ses troupes hier soir avec une première échéance, Cyprien Pézril, pour trancher la question de la primaire.
On ne peut pas être la gauche la plus bête du monde, défend l'entourage d'Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui propose donc à ses adhérents de voter le 9 juillet au plus tard, dire ce qu'ils préfèrent pour la présidentielle. Parmi les options envisagées, une sorte de primaire interne pour désigner le candidat du PS, François Hollande, Boris Vallot, Olivier Faure ou Raphaël Glucksmann, candidat amené ensuite à affronter dans une autre primaire l'écologiste Marine Pontollier ou l'ex-insoumis François Ruffin. Maintenant, il faut avancer en jouant un proche du patron du PS. Jusqu'ici, c'est Raphaël Glucksmann qui est le mieux placé, mais rien ne dit que les militants socialistes vont le soutenir. Notre partenaire, c'est le PS, sera sur un de ses proches, persuadé qu'il peut concurrencer Jean-Luc Mélenchon, qui pour l'heure fait course en tête à gauche.
L'actualité ce matin, c'est aussi l'adoption du projet de loi d'urgence agricole voté en première lecture à l'Assemblée nationale dans sa version initiale. Pour répondre à la colère du secteur, le texte prévoit notamment la facilitation de grands projets d'élevage, d'accessibilité à l'eau via des méga-bassines ou encore la lutte contre la concurrence déloyale. Ils sont près de 5 millions en France, considérés comme riches. C'est plus de 7% de la population, nous dit un rapport sur le niveau de vie des Français les plus aisés, publié par l'Observatoire des inégalités. Victor Joannin, à partir de quel niveau de revenus sommes-nous considérés comme riches en 2026?
Eh bien, tout dépend de la composition du foyer. Une personne seule est riche si elle touche plus de 4300 euros par mois après impôt sur le revenu. Un couple sans enfant s'il touche plus de 6 400 euros par mois et une famille avec 2 adolescents, 10 730 euros. Le coût du logement n'est pas pris en compte, même si les Parisiens, par exemple, payent des loyers très élevés, car les auteurs du rapport estiment qu'ils bénéficient en contrepartie de nombreux services comme des écoles de qualité. La région parisienne concentre d'ailleurs un tiers des riches, dont la grande majorité sont des cadres supérieurs, des hommes âgés de plus de 45 ans. Leur niveau de vie a augmenté 2 fois plus vite que celui des plus pauvres sur les 30 dernières années. En somme, déplore le rapport, les inégalités se sont accrues.
RMC 7h07, la préparation des Bleus se poursuit à Clairefontaine.
Une équipe de France au complet au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a profité d'un déjeuner avec les joueurs pour leur adresser un petit message de soutien.
Moi, je rêve qu'il y ait la troisième étoile qui arrive là, au-dessus du coq français. Ça nous irait très bien. Je sais que ça ne viendra pas tout seul. Rien n'est écrit. La France sera derrière vous durant cette compétition. Chaque étape, chaque jour. Et n'oubliez jamais que ça vous donne toute la force. Donnez-vous à fond, parce que c'est l'occasion d'une vie. Vive les Bleus, vive la République et vive la France.
Et pour écrire l'histoire, ça commence demain. Premier match de préparation pour le mondial pour les Bleus à Nantes face à la Côte d'Ivoire. Ce sera à vivre sur RMC. Puis rapidement, un mot de Roland Garros avec trois Italiens et un Canadien sur les courts aujourd'hui en quart de finale chez les hommes au lendemain des qualifications de Mensik et Zverev pour le dernier carré du tournoi parisien. Roland Garros sur RMC et sur la radio digitale 100% terre battue.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Elle a disparu vendredi à 15h. La petite Liana, 11 ans, est toujours introuvable. Le principal suspect, un homme de 41 ans, qu'elle connaissait, père d'une de ses amies, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Et l'on apprend hier soir qu'il avait en réalité été l'objet d'une plainte pour viol déposée en août dernier, sans qu'elle n'ait la moindre conséquence pour l'heure. Bonjour Jacques-Charles Pombonne, vous êtes général de gendarmerie, vous avez commandé la section de recherche d'Orléans. Est-ce qu'on peut espérer retrouver la collégienne? Où en est l'enquête? Je vous pose la question dans un instant. Dans ce genre d'affaires, le temps joue contre les enquêteurs. Voilà votre parti pris dans un instant. Il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Elle a disparu vendredi à 15h, la petite Liana est-elle encore en vie? L'enquête et les recherches se poursuivent dans le Gers. Bonjour Jacques Fombonne, vous êtes général de gendarmerie, vous avez commandé la section de recherche d'Orléans. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Le principal suspect, Jérôme B, a été mis en examen. Il s'agit du père d'une des amies de Liana. Il réfute toujours être lié à la disparition de la petite Liana à 11 ans. Introuvable donc depuis vendredi dernier. Et l'on a appris hier soir que cet homme, Jérôme B, avait fait l'objet d'une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans déposée en août dernier. Depuis 9 mois donc, cette plainte pour viol n'a en réalité pas vraiment été prise au sérieux. Il y a eu 54 jours pour que la brigade informe le parquet, puis encore 5 semaines pour que le dossier arrive à Auch, c'est-à-dire 3 mois rien que pour le transit administratif. Et Jérôme B n'avait jamais même été inquiété ou interrogé sur ce viol. Comment c'est possible ?
Ah ben c'est possible parce que c'est un... Alors on n'a pas tous les éléments, mais à l'exposé de ce que vous dites, c'est plus qu'un dysfonctionnement. 53 jours pour quitter la brigade, ça paraît étonnant, sauf s'il y a une enquête, et c'est une enquête criminelle, un viol c'est une infraction pour laquelle on risque 20 ans de réclusion criminelle. Il faudrait savoir s'il y a une enquête, et une enquête qui n'a rien donné, et que les gendarmes ont transmis à ce moment-là au parquet, parce que le parquet est forcément avisé, mais même le premier jour lorsqu'il y a une infraction. Ensuite, ce sont, je dirais, des délais administratifs de transmission. C'est pas une décision judiciaire qui tarde, mais c'est inadmissible.
Il s'agit pas juste d'un vol,
il s'agit
du viol d'une petite fille de 10 ans et d'un homme que l'on a laissé dans la nature depuis 9 mois. Ce qui fait dire d'ailleurs à la maman, et on l'a entendu dans le journal de 7h, ce témoignage édifiant, ce qui fait dire à la maman de la petite fille qui a porté plainte pour viol: si la plainte contre ma fille avait été prise au sérieux, je me dis que la petite Liana serait peut-être encore tranquillement chez elle.
Oui, parce qu'il aurait été certainement condamné avec, alors depuis le mois d'août...
Au moins mis en examen.
Et pour une affaire de viol sur mineur, on peut dire avec une quasi-certitude mis en détention.
Et cette situation, elle s'ajoute donc aux différents témoignages et à cette immense inquiétude, parce qu'elle est introuvable, Liana, depuis vendredi. C'est une course contre la montre.
Oui, toujours. Alors, quelle que soit l'affaire, c'est toujours une affaire criminelle et toujours une course contre la montre, parce que les témoignages vont devenir de plus en plus imprécis, parce que les éléments de police technique, la piste vont disparaître petit à petit. Et puis là, effectivement, comme vous le dites, Apolline, il y a le caractère particulier. Où est la petite? Est-elle encore en vie? Et comment peut-on la retrouver ou la chercher?
Comment est-ce qu'on fait pour faire parler quelqu'un qui ne veut pas parler? Jérôme B, il est donc en détention provisoire, mais depuis lundi, semble-t-il, face au procureur d'Agen, il garde le silence.
Alors, d'abord parce que c'est son droit, hein, il faut le dire, même si c'est très difficile de garder le silence, c'est un droit maintenant qui est inscrit formellement dans le code de procédure pénale. Généralement, ce sont les avocats, tant qu'ils ne disposent pas d'une substance suffisante dans le dossier d'enquête, qui disent à leur client: écoutez, taisez-vous, Nous attendons d'avoir d'autres éléments et puis ensuite on s'expliquera avec le juge d'instruction. Alors il a donné quelques éléments en garde à vue. En garde à vue, ce genre d'affaires se traite d'une façon un peu particulière parce que il faut d'abord arriver à cerner le profil de la personne que l'on a en face de soi pour savoir comment il réagit, quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses qui lui sont importantes. Moi, je disais souvent à mes enquêteurs, plus l'affaire est grave et plus on attend avant de rentrer dans les questions qui fâchent. On va parler d'un peu tout. On va voir quelles sont les choses qui ont de l'importance pour lui.
Pour le mettre quoi ? En confiance ?
Pardon.
Pour le mettre en confiance, en quelque
sorte. Pour le mettre en confiance, absolument. Et puis, pour que même, à un moment donné, ils se disent, mais attendez, je suis là pour une affaire très grave, et puis on m'en parle pas. Et, petit à petit, on va essayer de dérouler la pelote. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rompre le dialogue, que la personne, à un moment, vous dise, écoutez, maintenant, je vous dis plus rien, j'ai le droit au silence, et j'attends la fin de la garde à vue, il en a pour 48.
Comme vous dites, il faut effectivement créer des circonstances pour qu'il parle. Et en même temps, on est dans une urgence vitale, puisqu'on se dit que la petite a disparu, évidemment, depuis vendredi. Jérôme nous appelle de Pau, au 3216. Bonjour, Jérôme.
Bonjour Apolline, je me mets un peu à l'écart, il y a un peu de bruit, je suis déjà au boulot. Bonjour.
Alors, et bonjour. Vous êtes au boulot, vous êtes chauffeur livreur. Oui, effectivement, oui. Mettez-vous à l'écart, vous vouliez réagir. Je crois que comme moi, vous vous êtes dit effectivement que cette plainte qui n'avait pas été prise visiblement suffisamment au sérieux, ou en tout cas avec suffisamment de rapidité, ça vous désespère.
Bah, plusieurs choses déjà, et un peu plus au sociologique, c'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un en prison, tu le mets aussi déjà pour l'enlever de la société, mais aussi pour le protéger lui-même. Je vais m'expliquer. Cette personne-là, donc, a fait quelque chose et resté 9 mois dans la rue. Je veux dire, le père de la petite fille de 10 ans aurait pu, mais 1000 fois, le choper, le défoncer. Au bout d'un moment, il va falloir que la justice comprenne qu'il va falloir absolument qu'il sorte ces gens-là de la société. Sinon, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire justice eux-mêmes.
Alors, Jérôme, ce que vous voulez dire, c'est que vous estimez que la colère... J'ai reçu hier la maman d'Elias, je dois vous dire, sur BFM TV, parce qu'elle a le sentiment de se heurter à un mur de la justice et à la difficulté simplement à pouvoir parler après les dysfonctionnements qui avaient conduit aussi à la mort de son fils, 14 ans, qui a été tué par 2 mineurs qui pourtant étaient connus de la justice. Et elle avait cette phrase, elle disait, moi, je viens parler ici parce que je préfère parler que de me révolter. Elle disait, le problème, c'est que le mépris ou le mur de la justice entraîne une forme de colère et donc de révolte. Évidemment qu'il faut que la justice réponde, mais elle disait, j'ai encore confiance dans la justice. Si la justice nous répond, c'est évidemment à la justice de faire cela.
Je vais aller plus loin, Pauline. Je pense qu'au niveau sociologique, les gens, mais sur tous les sujets, les gens sont pour l'instant très attentistes jusqu'en 2027. Le prochain qui va arriver, quelle que soit sa couleur, son étiquette politique, s'il ne fait rien, je pense que même au niveau judiciaire, ça va basculer et les gens vont finir par faire de plus en plus justice eux-mêmes, car ils ne croiront absolument plus à la justice de notre pays.
Il faut que la justice soit rendue et soit rendue rapidement et qu'elle fasse son travail. C'est une évidence et on sent la colère qui gronde. Hein. Merci Jérôme évidemment pour votre témoignage. On espère bien sûr que la justice fonctionne. On a vu à certains autres moments que la justice fonctionne parfaitement, mais il y a, on a l'impression, Jacques Fambonne, dans ces enquêtes, évidemment des moyens déployés qui sont considérables pour la recherche de la petite Liana. Mais c'est vrai que ça interroge, c'est-à-dire qu'on se dit, mais si des plaintes sont déposées avec des témoignages aussi forts que celui de la jeune fille de 10 ans qui a témoigné en août dernier, et que ça met autant de temps pour une sorte, visiblement, de problématiques d'organisation, de processus. Est-ce que c'est acceptable?
Non, c'est pas acceptable. Comme le disait votre intervenant, à partir du moment où l'État est pas en mesure de faire appliquer la loi, le citoyen a la tentation de le faire. Mais d'un autre côté, alors ça dépasse un petit peu mon cercle de compétences, mais on a l'efficacité de la justice qu'on mérite. Lorsque Bonaparte a créé le code d'instruction criminelle en 1808, pour une population de 30 millions d'habitants complètement rurale, il y avait 3000 magistrats. Ils sont à peine 2 fois plus maintenant, avec des fonctions de magistrats qui sont évidemment complètement différentes. Il n'y avait pas de juge d'affaires matrimoniales, il n'y avait pas de juge de l'exécution. Et dans une société qui est maintenant complètement urbanisé avec des moyens de circulation qui sont évidemment pas les mêmes.
Merci beaucoup Jacques-Charles Fambonne d'avoir répondu à nos questions ce matin et de nous avoir éclairé. Ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, vous finissez en citant Napoléon. Quelle plus belle transition nous aurions pu rêver pour accueillir Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Notre historien d'Apolline Matin, fan de Napoléon. On peut le dire comme ça Arthur ou pas?
Oui, c'est beau travail.
Fan et spécialiste bien sûr de Napoléon. Allez, une étape importante a été franchie hier dans le scandale du Déconne, de quoi est-ce qu'on parle justement, Arthur ?
Eh bien, le chlordécone, c'est un pesticide et on sait qu'il est toxique depuis les années 70, mais il a fallu plus de 20 ans pour qu'on l'interdise. Ce matin, à Pauline, on parle d'un scandale d'État.
Vous nous le dites dans un instant. Il y a Arnaud Demanche aussi qui vient pour pirater le 32-16. Il est 7h21. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier, le Parlement a définitivement adopté une loi qui reconnaît la responsabilité de l'État dans un scandale sanitaire lié à un pesticide, le chlordécone.
Et il était temps, hein. Ce pesticide a fait des ravages dans les Antilles françaises. Jusqu'en 1993, on l'utilisait dans la culture de la banane. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en 2018, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique avait du chlordécone dans le sang. Donc oui, ce matin, on peut parler d'un scandale d'État.
Un scandale qui a commencé aux États-Unis.
Oui, c'est là-bas que dans les années 50, on découvre la molécule du chlordécone. À partir de 1958, elle est fabriquée et commercialisée sous la forme d'un pesticide agricole. L'usine se trouvait dans la ville de Hopewell, dans l'État de Virginie. Sauf que, à partir de 1975, des ouvriers de cette usine présentent des symptômes très graves, hein, des problèmes aux testicules, des troubles neurologiques, des mains qui tremblent, des problèmes de peau. Il y a aussi une forte suspicion sur l'aspect cancérigène du produit. Des signaux très alarmants qui poussent donc les autorités américaines à interdire définitivement la production de ce produit en 1976.
Et au contraire, en France, on l'autorise.
Et oui, ça c'est le plus scandaleux de cette affaire. Pendant qu'on l'interdit aux États-Unis, on l'utilise allègrement dans les plantations de bananes aux Antilles françaises. Ce pesticide éliminait les charançons, hein, vous savez, ces insectes qui dévorent les arbres. À la fin des années 70, deux rapports alertent les autorités. D'après eux, le chlordécone serait toxique, il polluerait les sols et surtout présenterait des risques cancérigènes évidents. Mais ça ne suffit toujours pas pour une interdiction. Clairement, on a fait le choix de l'argent plutôt que celui de la santé.
Il faut attendre 1990 pour que l'État français interdise le chlordécone.
Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas à cette interdiction, puisque même s'il est très toxique, ce pesticide était très efficace. Donc, des grosses entreprises de planteurs vont demander des dérogations pour l'utiliser, ce chlordécone. Ces dérogations, Apolline, tenez-vous bien, c'est le ministre de l'Agriculture en personne qui va les donner. Résultat, ce produit sera utilisé dans les Antilles jusqu'en 1993, alors qu'il était interdit aux États-Unis depuis 1976.
Le bilan sanitaire est désastreux.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. D'après des chercheurs, le chlordécone serait à l'origine du nombre anormalement élevé de cancers de la prostate en Guadeloupe. Hein. Il y en a 3 à 4 fois plus là-bas qu'en métropole. En 2007, un cancérologue, le professeur Belpomme, a dénoncé, je cite, « une affaire plus grave que celle du sang contaminé ». Et il faut attendre la visite d'Emmanuel Macron aux Antilles en 2018 pour que l'État commence seulement à reconnaître ses torts. Le président avait alors parlé d'un scandale environnemental. Le vote de la loi à l'Assemblée hier est donc une grosse étape qui pourrait seulement mener à l'indemnisation des victimes.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui chaque jour remonte le temps avec nous. Il est 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Dans le face-à-face ce matin, mon invité c'est l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls.
Oui, pour parler de la casse, hein, suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Ça, Mathieu Béliard et moi, on se souvient du PSG avec Laurent Leroy, Francis Liasser, Eric Rabessandratana et Kaba Diawara. Ok, ça finissait 13e après un match nul à Sochaux. Lionel Potillon, il tirait sur les poteaux et tout, mais au moins, les Champs-Élysées étaient... Nickel. Voilà. Bien Arthur Bertrand, il pouvait faire des expos
tranquille.
Autant qu'il le voulait. Il n'y avait personne pour aller les savater. Là, la dernière, c'était abusé. Vous savez qu'il y a eu 25 000 visiteurs. On a eu 22 pour voir l'exposition et 24 978 pour aller la démolir. Ben voilà, maintenant le PSG gagne. Alors, boum, des casseurs partout. Tiens, merci d'ailleurs à Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes ou Brest d'avoir été aussi nuls en Ligue des Champions depuis 20 ans. Ils l'ont fait exprès pour préserver nos villes et nos patrimoines. Stéphane Bern vous dit merci. Manuel Valls. Manuel Valls, c'est l'invité idéal pour ce matin parce que le foot et le maintien de l'ordre, c'est ses deux passions. Alors, les forces de l'ordre ont procédé à 900 interpellations. 98% sont des jeunes hommes. Et donc, on peut se poser la question, faut-il interdire les jeunes hommes dans les rues, au moins les soirs de Ligue des Champions? Enfin, je veux dire, on y arrive, hein. Pour d'autres événements, par exemple, les concerts de Franck Michael, les soirées Tupperware, il n'y a jamais un homme, encore moins un jeune. On y arrive, on s'est fait. En tout cas, c'est bizarre cette manière de tout casser quand t'es content. Tiens, est-ce que s'ils avaient perdu, les supporters du PSG, ils auraient réparé des trucs.
Ah oui.
Est-ce qu'ils auraient graissé des vélib, ramassé des détritus, nettoyé des devantures.
Oh, c'est beau ça.
J'ai pas l'impression en fait. Ce serait bien. Alors j'ai écouté l'interview que vous avez faite de Jordan Bardella lundi sur le sujet. Il était pas content. Et alors quand il est pas content, j'ai remarqué un truc. Ça m'a obsédé toute l'interview. Quand il est pas content, il respire hyper fort, hein, comme s'il voulait casser la gueule à quelqu'un. Non mais il dit, Madame de Malherbe, ces jeunes qui sont venus casser, qui sont venus piller, qui sont venus brûler les voitures des honnêtes gens, des Français qui travaillent, eh bien ils doivent comprendre que la récré est finie, voilà. Parce que si on laisse faire, eh bien ils rentreront dans vos immeubles, ils fractureront vos portes, ils rentreront chez vous. Il l'a vraiment dit, hein.
Oui,
ils rentreront dans vos immeubles, ils rentreront chez vous, ils ouvriront vos frigos.
Non, ça il n'a pas dit ça.
Vos danettes. Ils seront avec vos femmes. Ils vous voleront votre bourbon, vos deux Siciles, vos trois mousquetaires et vos quatre accords Toltec. Alors c'est tous des gamins, il y a encore des mineurs. On reparle beaucoup de l'éducation des ados. Est-ce qu'il faut être plus ferme, moins ferme, le rôle des parents, blablabla. Tout le monde est perdu, on ne sait plus quoi faire. Alors que la solution, elle est sous nos yeux. Apolline, devenez ministre. Ministre des ados.
C'est une compétence.
Parfait, ils ont rien cassé samedi, on est d'accord.
Non.
T'es pas sur les champs. Et ben voilà,
devenez
la maman de cette nation, votre pays vous appelle. Pendant ces rendez-vous avec Manuel Valls.
Allez, mon pays m'appelle. En attendant, c'est l'antenne qui m'appelle. On se retrouve évidemment à 8h15 tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h28, restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Un policier en prison condamné pour avoir mis en joue avec son arme des supporters du PSG samedi soir alors qu'il était ivre et hors service. Majorité de sursis pour les autres comparutions immédiates d'hier. 15 ans après l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, un prêtre assure en direct à la télévision qu'il a hébergé le fugitif et recueilli ses aveux en confession. Et puis RMC sous la chaleur suffocante des États-Unis à une semaine du début de la Coupe du monde de foot.
L'un des seuls supporters parisiens incarcérés après les violences de samedi est un policier.
23 nouvelles comparutions immédiates hier soir, la plupart des casseurs qui écopent de sursis. Et donc, cet homme condamné à 14 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a dormi en cellule. Julie Bro, vous suivez ces audiences pour RMC. Vous avez rencontré ceux qui accusent ce policier de les avoir menacés avec son arme alors qu'il était hors service.
On a cru qu'on allait mourir, répètent en boucle Brandon et Reda. Samedi dernier, les deux amis célébraient la victoire du PSG, drapeau en main, au volant de leur voiture dans les rues de Paris, avant qu'un homme ne se mette en travers de leur route.
Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans brassard de police, encore une fois, je le répète, puisque c'est important de le dire. Il a braqué, du coup, mon ami qui était au volant. Il lui a dit de couper le contact, fils de pute, bouge pas ou je te shoot.
Le policier, hors service ce soir-là, dit ne se souvenir de rien. J'étais ivre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, lance-t-il depuis le box du tribunal. Pourtant, les automobilistes assurent avoir été victimes de racisme.
Il y a eu des insultes, rentrez chez vous, vous n'êtes pas dans votre pays.
J'ai un ami arabe, se justifie le policier, peinant à convaincre le tribunal qu'il a finalement condamné à 14 mois de prison ferme.
C'est une très grande victoire. C'est un soulagement, je pense, pour toute la société, parce que ces gens-là, ils auraient un affaire dehors et devraient servir les droits de la République, quoi. Et là, il est carrément du mauvais côté.
L'IGPN, la police des polices, mène encore des investigations complémentaires alors que le policier risque une interdiction définitive d'exercer son métier.
Et notez que le bilan de ces célébrations s'est alourdi. 3 morts désormais, en plus d'un homme décédé dans un accident de scooter. 2 ont été repêchés dans la Seine, indique le parquet de Paris. Le suspect de l'enlèvement de la jeune Liana faisait déjà l'objet d'une plainte pour viol sur mineur déposée l'été dernier par la mère d'une enfant de 10 ans. Vous entendrez son témoignage dans le journal de 8 heures. Les recherches pour tenter de retrouver Liana doivent reprendre ce matin dans le Gers. 7h33 sur RMC et on se pose cette question ce matin. La traque de Xavier Dupont de Ligonnès est-elle relancée? Elle se pose parce qu'une émission de M6 promettait des révélations, des traces de celui qui a tué sa famille près de Nantes il y a 15 ans avant de disparaître. Romain Houg en direct avec nous pour faire le point. Que faut-il retenir des éléments dévoilés hier?
Principalement un témoignage jusqu'ici jamais entendu, celui d'un homme qui se présente comme un prêtre, le père Marc, officiant dans un monastère de l'Aude. Ce prêtre a appelé hier soir en direct dans l'émission et affirme avoir reçu pendant 4 jours Xavier Dupont de Ligonnès au sein de son établissement religieux en 2022. Plus que ça, il dit même avoir reçu les confessions confession du fugitif qui lui aurait alors avoué avoir tué toute sa famille. On le sait, c'est l'une des pistes particulièrement creusées par les enquêteurs. Dans sa cavale, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait s'être caché dans des monastères. Plusieurs ont déjà été perquisitionnés sans succès. Des révélations non vérifiées à ce stade par les enquêteurs que le prêtre a surfaire avec l'accord de l'évêque de Carcassonne et qui aurait été corroborée par une sœur du même monastère qui, elle aussi, aurait appelé l'émission.
Et dans le même temps, Romain, le journal Ouest France creuse pour sa part une piste sur Internet.
Oui, le journal a épluché un forum de discussion catholique sur lequel Xavier Dupont de Ligonnès avait l'habitude de s'exprimer sous deux pseudos connus et pourrait avoir découvert un troisième pseudo Epsilon utilisé par le suspect et surtout actif jusqu'en 2017, soit 6 ans après la tuerie. Pour l'affirmer, Ouest France a utilisé ce qu'on appelle la stylométrie, c'est l'analyse de ses messages, vocabulaire, récurrence de certains termes, ponctuation, tic d'écriture, conclusion. D'énormes similitudes existent entre les messages postés par les trois comptes et même avec des écrits personnels retrouvés sur l'ordinateur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui pourrait donc laisser croire que l'homme était en tout cas bien vivant en 2017, 6 ans après l'assassinat présumé de toute sa famille.
Les explications de Romain Houck pour RMC. Au Moyen-Orient, les États-Unis repoussent des attaques de drones et de missiles iraniens. Des positions américaines au Koweït et à Bahreïn ont été visées. Washington a riposté en frappant l'île iranienne de Keshm. Le sport et une journée aux accents italiens à Roland-Garros. 3 joueurs italiens sur les courts aujourd'hui pour la suite des quarts de finale. Coboli, Berrettini et Arnaldi. Hier, le désormais favori allemand Zverev s'est qualifié en demi-finale, tout comme le jeune Jakub Mensik. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Sabalenka va aussi jouer son quart de finale contre la russe Schneider. Ce sera à suivre évidemment sur la radio digitale RMC 100% Terre battue. RMC, vous le savez, aussi radio officielle du mondial de foot. Les Bleus, encore à la fraîche. À Clairefontaine, ils ont reçu hier la visite d'Emmanuel Macron. Martin Bourdin, on vous retrouve comme tous les jours cette semaine aux États-Unis pour RMC. Aujourd'hui, vous êtes à Houston, symbole Houston de la grosse inquiétude pour cette Coupe du Monde. La chaleur que les autorités cherchent à contrecarrer comme elles le peuvent.
De grandes tiges en acier de 4 à 5 mètres de haut surmontées d'un grand cercle, ça intrigue les habitants de Houston.
Je ne sais pas ce que c'est, une œuvre d'art peut-être ?
Pas une œuvre d'art, non, mais des arbres 2.0 en métal. Un tissu doit encore être installé au sommet avec cette promesse. Il fera 10 à 15 degrés de moins pour les personnes qui se trouvent à l'ombre de la structure.
Oui, j'en ai vu plusieurs en ville. C'est cool, si ça marche, ça pourrait vraiment aider cet été.
Parce qu'ici on suffoque, je ne fais pas un pas dehors sans transpirer. À cause de la chaleur évidemment, mais surtout de l'humidité, ça ne va pas s'arranger dans les jours à venir, m'explique Ruth, une touriste venue du Canada.
On s'en va à la maison jeudi. On n'aurait pas voulu, par contre, s'attarder davantage. 40 degrés, on annonce, on s'en va vers le 40 degrés dans juin et juillet.
En juin et juillet, Houston va accueillir 1,5 million de fans pour la Coupe du Monde, notamment beaucoup d'Allemands, de Hollandais ou de Suédois dont les équipes jouent ici à Houston.
Tom, good luck.
Dites-leur bonne chance, s'amuse Dominique, lui aussi en sueur.
Ils ne sont pas prêts pour cette chaleur. C'est une chaleur différente ici. On se croirait dans un micro-ondes.
Des fans qui vont aussi devoir gérer les changements de température. La climatisation est partout à chaque fois qu'on franchit une porte, y compris celle du stade de Houston couvert et climatisé.
C'est toujours au Texas, mais cette fois à San Antonio, que RMC vous emmène cette nuit, début des finales NBA. Dès 2h30 du matin, les Spurs de Victor Wembanyama accueillent les New York Knicks. C'est unique. RMC vous les fait vivre sur l'appli et sur le site RMC. Une radio digitale a été créée pour l'événement.
Et puis le quintet.
Départ 13h55 aujourd'hui à Laval, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 10, Jolie Star. Son outsider, le 11, Jojo Toons, le 10 et le 11.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h38 au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir après ce que l'on a découvert hier. Liana, non seulement introuvable depuis vendredi, mais le principal suspect, en réalité, a été désigné comme violeur par une petite fille de 10 ans qui a déposé plainte en août dernier, et depuis, rien. La plainte est passée de commissariat en commissariat, semble-t-il, sans que l'homme n'ait été véritablement inquiété. Bonjour Pierre.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Pierre, vous nous appelez de Toulouse, où vous êtes commercial, ça vous fait réagir évidemment. Hein.
Bah oui, moi ça me fait réagir, parce que déjà, moi je suis papa de 2 enfants, et puis je me mets déjà à la place des parents, et je leur apporte tout mon soutien, ça doit être très très difficile en ce moment. Et je suis comme je pense la grande majorité des Français, extrêmement peiné, extrêmement en colère, parce qu'en fait nous, je pense que la majorité des Français, on en a marre d'entendre qu'il y a telle personne qui a violé et qui avait déjà des plaintes aux fesses, telle personne qui a tué sa femme qui avait déjà des plaintes aux fesses. Mais en fait, elle fait quoi la justice? Je suis désolé, quand une gamine de 10 ans, elle porte plainte pour viol, qu'elle parle de pénétration digitale, d'attouchement de sein, une gamine de 10 ans, elle est pas censée savoir ces mots-là, elle est même pas censée savoir ce que c'est. On doit tout de suite la prendre au sérieux. Ce monsieur, c'est même pas 10 mois après, on l'a pas entendu. Ce monsieur, on doit tout de suite aller le choper chez lui, le mettre en garde à vue et le travailler. Et moi, ce qui m'énerve aussi dans cette histoire, c'est que ce monsieur, il a été arrêté, je crois, le lendemain, parce qu'on l'a vu embarquer la petite Liana dans sa voiture. Et le monsieur a le droit de garder le silence en garde à vue. Mais je pense que comme la majorité des Français, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce monsieur-là, enfin, je dis ce monsieur, mais c'est un monstre. C'est même pas un monsieur, c'est un monstre. Il n'a pas le droit de garder le silence. Il doit parler par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens nécessaires, il doit parler.
Non, alors, par tous les moyens nécessaires, qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre? Est-ce que vous voulez, enfin, on va pas aller torturer le monsieur, quoi.
Mais Apolline, ça fait 5 jours que la gamine, elle est pas là. Ça fait 5 jours qu'on
a vendredi à 15h et la dernière fois qu'elle a été vue, c'était effectivement dans sa voiture.
Moi, je vais vous dire, Apolline, pour des trucs sur mineurs comme ça, où il est avéré que le monsieur, il a embarqué la gamine dans sa voiture et que ses propos sont incohérents, bah oui, par tous les moyens nécessaires, il doit parler.
Ce que je trouve très intéressant, et effectivement, il faut entendre cela, c'est que votre sentiment à vous, celui qu'on a entendu aussi ce matin dans la bouche de Jérôme, c'est de dire, voilà, tant que s'il y a davantage encore de dysfonctionnement, et là, clairement, on est face à un dysfonctionnement de la justice qui n'a pas pris suffisamment au sérieux cette plainte, pourtant, effectivement, très circonstanciée d'une jeune fille de 10 ans, alors, ça donne un sentiment de révolte et parfois un appel, Jérôme le disait tout à l'heure, à se faire justice soi-même. Il ne le souhaitait pas, mais il disait c'est à ça qu'on va arriver si la justice ne le fait pas. Et vous-même, vous allez jusqu'à dire, bah, au fond, il faut carrément les forcer à parler. On entend évidemment tout ça et c'est important aussi d'entendre ce sentiment que ça fait naître chez vous. Et espérons qu'on trouvera les réponses du côté de la justice, précisément pour apaiser tout cela. Pour l'heure, on le voit bien, ça n'est pas le cas. Merci en tout cas pour votre témoignage et votre réaction, Pierre. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer au 32-16, il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Plusieurs peines de sursis ou des courtes peines de prison ferme aménageables ont été prononcées. La justice poursuit son travail après les violences qui ont suivi la victoire du PSG ce week-end. Bonjour Laure Lavalette.
Bonjour,
vous êtes députée Rassemblement National du Var. Une seule condamnation hier à de la prison ferme et d'ailleurs, c'était contre un policier hors service qui a mis en joue des automobilistes qui célébraient la victoire du PSG samedi soir dans les rues. Il a été condamné hier en comparution immédiate à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mandat de dépôt. D'abord, ça vous surprend, j'imagine?
L'attitude du policier?
Ouais.
Oui, j'imagine bien que c'est pas ce qu'on lui demandait de faire. Mais quand vous dites que la justice poursuit son travail, non, je pense que le laxisme judiciaire poursuit son travail. Et c'est une vraie question d'imaginer qu'il n'y a qu'une seule peine de prison qui a été prononcée et qu'aucun des manifestants, des casseurs...
Il y a des peines de prison, mais avec sursis.
Avec sursis et avec aménagement. En fait, c'est pas ça qu'on demande. Les Français veulent de la fermeté. C'est inimaginable d'imaginer que quand vous chopez quelqu'un, il ne paie pas pour ce qu'il a fait. Il ne paie pas en monnaie sonnante et trébuchante. Je sais pas, vous dégradez un abribus à la abribus, c'est 20 000 euros, et ben vous remboursez les 20 000 euros. Et si vous êtes mineur, et ben c'est vos parents qui remboursent les 20 000 euros. On aménage le remboursement, mais il faut rembourser intégralement ce que votre enfant a cassé. Voilà. Je pense que cette fermeté, il va falloir l'avoir dès maintenant. Gabriel Attal s'est gosillé avec son casseur, pilleur.
Il disait, tu payeur. Casses, tu payes.
Bah, excusez-moi, où est-ce qu'on en est, Apolline de Malherbe, avec cette maxime qui était pourtant de bon sens? Parce qu'évidemment, quand tu casses, tu payes, mais il faut cette triple certitude d'arriver à être rattrapé, d'être jugé et de payer. Et pour les faits les plus graves, eh ben, effectivement, quand vous avez un mortier d'artifice envers un policier, vous dormez en prison. Il faut évidemment abaisser aussi la majorité pénale. On a bien vu
ça l'âge. C'est-à-dire que l'excuse de minorité.
C'est-à-dire quand vous avez des enfants de 13, 14, 15, 16 ans, vous pouvez pas les juger comme si voilà.
Alors le plus jeune des mineurs qui ont été effectivement interpellés à 14 ans.
À 14 ans, ça pose une vraie question. Où sont les parents quand vous voyez un enfant de 14 ans qui fait des... Enfin, je veux dire, c'était chaud, c'était des scènes de guérilla. 71 villes ont été touchées. Okay. Même Toulon, la rue Lamalle, qui est l'endroit, j'allais dire le plus calme de Toulon, il y a eu une bande, d'une espèce de horde qui est arrivée et qui a dégradé. Mais je
vous
pense que quand Jordan Bardella a dit que la prochaine fois ils rentreront dans les immeubles, je pense que c'est cet ensauvagement qui galope. Ça peut évidemment arriver si on n'a pas une réponse ferme. Et encore une fois, c'est la liberté, la paix des Français qui est sacrifiée sur l'autel de ce laxisme à la fois judiciaire et politique.
Alors vous dites laxisme, mais quand on écoute pour le coup les déclarations, je le disais, de Sébastien Lecornu hier, mais même au fond il y a un an, quasiment les mêmes images, dans les mêmes circonstances. C'était Gérald Darmanin, déjà ministre de la Justice, qui disait la loi, la réponse n'est pas à la hauteur de ces violences. Il proposait par exemple de supprimer le sursis. C'est-à-dire qu'il disait, en fait, quand il y a des petites peines, on les exécute tout de suite. Là-dessus, vous êtes d'accord?
On est d'accord, mais ces gens-là sont au pouvoir, ont été au pouvoir. Ça fait 10 ans que toute cette clique est au pouvoir avec Emmanuel Macron. Donc, on juge un arbre à ses fruits. Et où sont les résultats? Je vais vous dire, ce qui pose question, c'est qu'à Budapest, il a fallu 4000 policiers pour passer une bonne soirée. Nous, avec 22 000 gendarmes mobilisés, ça a été le chaos. Vous savez, ces images-là, elles ont des millions de vues sur Internet. Quel est le signal qu'on envoie au monde entier? Est-ce que vous pensez que la France est un pays sûr? Est-ce que vous imaginez que les investisseurs ont envie d'investir, de venir créer de la richesse aussi ici? Mais la réponse est évidemment non. Et puis, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, là, si on regarde cette grande image.
Alors, techniquement, il y en a, c'est pas droite. Juste une histoire d'image, c'est, on a les chiffres, hein, et notamment dans ces interpellations, c'est vraiment à 98%, quasiment l'intégralité des hommes.
Alors, où étaient les femmes? Il y a eu pas mal de témoignages de femmes qui disaient, moi, je ne suis pas sortie parce que je savais que je risquais un moment difficile. Enfin, voilà. Encore une fois, vous savez, hier, j'ai posé cette question au gouvernement. J'ai posé cette question à Sébastien Lecornu. C'est Monsieur Nunes qui m'a répondu. Et peu de temps après moi, il y a un député LFI qui a posé une autre question en disant, quand est-ce qu'on va protéger les gens de la police? Il faut bien que les Français comprennent qu'il y a deux France qui sont en train, évidemment, de s'opposer, et que 2027 va être une élection particulièrement importante parce que c'est deux projets de civilisation qui s'opposent. Les Français auront le choix. Vraiment, avec le sursaut, nous voulons réformer le pays profondément. On n'a pas juste envie de gagner, Apolline de Malherbe. On a envie de réformer le pays, d'armer nos policiers moralement, de leur donner cette présomption de légitime défense qui va leur permettre de mieux nous protéger aussi, parce que ça, tout est lié entre voilà le sursaut ou le chaos, et les scènes que les députés.
Ce que
LFI
vous évoquiez aussi sur les députés LFI. Certes, il y a eu effectivement ce tweet de Clément de Guettet avant le match, puis la déclaration du député Ali Duhara, qui était effectivement dans l'hémicycle hier, sur la doctrine du maintien de l'ordre qui se durcit partout. Mais quand vous voyez aussi qu'il y a eu deux mineurs de 13 et 14 ans qui ont été eux-mêmes blessés gravement à l'œil dans deux villes différentes de la région parisienne après des tirs de LBD, est-ce que là, vous ne vous dites pas qu'il y a aussi une difficulté à appréhender les jeunes par la police?
Mais je pense que la difficulté, c'est quand vous avez des scènes de guérilla, bien sûr qu'il y a une difficulté. Mais encore une fois, je pose la question, que faisaient ces enfants de 13 et 14 ans avec des bombes agricoles, avec des mortiers d'artifice? Enfin, je veux dire, quand on part à la guerre, on sait qu'on peut être blessé. Alors, évidemment que je ne connais pas, il y aura une enquête. Vous savez, la police est une des institutions qui est la plus contrôlée. Et évidemment, quand il y a des comportements déviants, bien sûr qu'ils doivent être contrôlés, mais je peux vous dire que ça l'est, et je pense qu'il vaut mieux réarmer moralement les policiers. Je pense que pour le maintien de l'ordre de tous ceux qui sont sur ce plateau, c'est plutôt une bonne idée.
Merci Laure Lavalette d'avoir répondu à nos questions ce matin. Député RN du Var, le face-à-face à 8h30, tout à l'heure on reviendra à ces questions avec l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre Manuel Valls. Nous sommes mercredi, le mercredi c'est la voix de droite sur RMC, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La droite peut-elle exister sans être unie pour la prochaine présidentielle?
Non, elle ne peut pas. La droite a 30 candidats. Elle n'a donc aucun candidat. Pour la droite, c'est assez simple. C'est l'unité ou c'est la défaite.
Et quand vous dites unité, c'est droite et centre?
Oui, bien évidemment.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
7h53, le bonus. Mathieu, l'événement au cinéma ce jour.
La sortie du film, La Bataille de Gaulle. Premier volet, L'Âge de Fer, une fresque historique. Le général de Gaulle, la France libre, la résistance sur grand écran.
Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Et la cour martiale vous a condamné à mort.
Autre chose?
Partout, des réseaux sont en train de se former.
Simon Abkarian, dans le rôle du général de Gaulle, est isolé à Londres. Il fait exister la France entre Churchill et Roosevelt. Moment clé du film, la bataille de Bir Hakeim, 1942.
Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie.
À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement.
Je n'ai pas d'autre option.
L'un des films les Français les plus ambitieux de ces dernières années, tourné en France, au Maroc, en Belgique, entre autres, 75 millions d'euros de budget, 700 figurants, des milliers de costumes, et le deuxième volet du film qui sortira rapidement après, le 3 juillet prochain.
Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus.
Les Français libres.
J'y arriverai.
RMC, Apolline Matin,
Voix de gauche,
Voix de droite.
C'est mercredi, le mercredi c'est Voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, met en garde contre, je cite, une machine à perdre à droite pour 2027. Il constate le rapprochement des divers candidats de droite et du centre dans les sondages. Il appelle à une primaire qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Pour vous, c'est l'union ou la mort ?
Une maison divisée sur elle-même ne peut pas tenir. C'est l'évangile, et c'est surtout Abraham Lincoln, à la veille de la guerre de sécession. Eh bien, la droite et le centre français habitent aujourd'hui cette maison-là. Leur plus grand obstacle, c'est ni Mélenchon, ni Le Pen, c'est eux-mêmes. Laurent Wauquiez a parfaitement raison. La division, c'est la défaite assurée.
Vous avez un exemple en tête ?
À ma petite échelle, oui. Aux élections municipales de Menton, j'ai fait la fusion entre les deux tours, pas par plaisir, par responsabilité. On ne perd pas une ville pour le confort d'un ego refusé de fusionner. C'est précisément ce que Chirac appelait la droite la plus bête du monde.
Alors, ça n'a pas marché.
Bon. Merci de me le rappeler. Pardon, c'est très agréable de vous voir le matin. Ça ne nous a pas suffi à Menton pour sécuriser la victoire, vous l'avez bien souligné, mais la logique reste la même. Et à l'échelle nationale, on est en train, à droite, de refaire la même bêtise.
Le problème, c'est que chacun va dire « c'est moi le plus incarné, c'est moi le plus prêt, c'est moi qui vais gagner ».
Et regardez les autres. La France insoumise a un chef, Mélenchon, un programme, uni, motivé, prêt. Au second tour, Glucksmann, fort, toute la social-démocratie, attendez-vous bien qu'ils se rangent tous derrière la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Le RN, lui aussi, va tenter de rassembler, attendez-vous à la même chose. À droite et au centre, on n'a pas une tête, on en a 30. Philippe, Attal, Borne, Darmanin, Retailleau, Bertrand, Lisnard, Dupont-Aignan, Le Maire, De Villepin, Bayrou, Barnier, Knafo. C'est plus une famille politique, c'est un exercice de respiration. On ne peut pas manger à terrasse à Paris sans être à côté de quelqu'un qui se croit le prochain président de la République.
Donc quoi, une primaire ?
Il aurait fallu une primaire ouverte, une primaire large, qui rassemblait, mais c'est trop tard. Enfin, moi, personnellement, je n'y crois plus. Reste donc la négociation. Qu'ils se mettent d'accord. Qui est le plus rassembleur ? Qui peut prétendre à la meilleure alternance ? Qui est le plus énergétique, le plus vivant, le plus visionnaire, le plus cohérent ? Qui a le plus de gravitas ? Je ne demande qu'une seule chose, qu'ils s'entendent, qu'ils négocient ou que l'un d'eux tue les autres.
Bon, et puis vous imaginez qu'il y ait vraiment une alliance entre droite et centre ?
Mais elle existe déjà en vérité. Sur le terrain, cette année, le député Charles Rodwell, macroniste, a fait adopter la loi dite philippine sur l'allongement de la rétention des étrangers sous OQTF. 145 votes, 145 signataires, de la droite jusqu'au centre. Voilà comment on fait. Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud, monte aujourd'hui avec Laurent Wauquiez, patron des députés LR, les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en France en 2030. Un Renaissance et un Républicain, main dans la main, portant un projet d'État. Quand il y a un cap, une mission, une vocation, ça marche. Le problème n'est pas technique, le problème il est de volonté.
Et pour la présidentielle, ça marche ?
Écoutez, j'ai un exemple en tête. Sarkozy en 2007, pardon de le citer, on
Sarkozy
a toujours un
problème. Nicolas.
Sarkozy perd, bien évidemment. En bâtissant une coalition, on l'a déjà rappelé, allant de Ramayade à Patrick Buisson, c'est-à-dire de la gauche modérée pro-laïque à la droite identitaire. C'est ça, rassembler. Et avec cette coalition-là, rappelons-le, il fait que 53%, c'est-à-dire l'étroitesse de la marge. Aujourd'hui, de toute manière, sans coalition, sans chef légitime, sans programme commun, la droite et le centre se présentent à un combat avec un fusil sans cartouche. Et vous me permettez une prédiction, si je peux me le permettre, si le Rassemblement National a Marine Le Pen comme candidat, je pense que c'est la prochaine présidente de la République. Mais si c'est Jordan Bardella, la droite a un coup à jouer.
Louis Sarkozy, la voix de droite. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h57, restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.